la troisième mise en scène. Vous venez donc pour la première fois en Avignon en compagnie de la Dami, avec la dernière pièce de Jon Foss, auteur norvégien, qui, à ma connaissance, n'a jamais été entendu ici dans le cadre de ce festival. C'est une création. Comment ce texte, cette dernière pièce de Foss, vous est arrivé?
Normalement, j'avais choisi une pièce, la pièce qui était écrite juste avant, c'est-à-dire Hiver. Et ça, c'est une pièce d'un homme et une femme qui sont entraînés, aspirés à partir ensemble, et l'homme, il quitte une famille. Et moi, quand j'avais terminé la lecture de cette pièce, j'ai pensé, qu'est-ce qui se passe avec la famille qu'il a laissée? Alors, quelques jours après, je rencontre Katharina von Bismarck qui me dit, il écrit beaucoup, Fossé, voilà la nouvelle pièce. Et c'est la pièce qui traite alors cette famille qui est laissée par la séparation des parents quelques années après. Alors c'est-à-dire une mère avec deux enfants adultes et avec un homme qu'elle rencontre.
C'est une pièce à quatre personnages, c'est assez rare d'ailleurs chez Fossé, non?
Oui, oui, oui. C'est une pièce qui est de toute façon différente dans la structure que d'autres pièces de Fossé. Elle est, je dirais qu'elle... Elle traite sept moments décisifs dans une vie de famille. Et il n'y a pas tellement les époques qui se glissent les unes dans les autres, sinon c'est vraiment une prise de sept moments d'une histoire de famille, je dirais.
Est-ce que vous diriez que c'est un huis clos familial?
C'est peut-être plutôt un huis clos entre une mère et une fille, et comment arriver à qu'elles se séparent?
Parce que le mot visite suppose des ouvertures.
Oui.
Et en même temps, il y a ce face-à-face entre la mère et la fille.
Oui, alors c'est-à-dire l'homme qui arrive, il a la fonction de séparer les femmes, dans le fond.
Comment on monte Foss? Parce que c'est une écriture très, très particulière, presque désincarnée, comme ça, avec l'arrêt du langage, des mots à la fois très simples et très, très quotidiens. Comment on fait pour que ces mots-là deviennent des répliques et que ces répliques les unes derrière les autres fassent une tension et une pièce?
Pour moi, c'est le contraire d'un langage désincarné. Le grand travail consiste à trouver comment faire vivre cette langue, c'est-à-dire tout ce qu'ils disent, ces personnages, ce n'est jamais détaché du personnage, des relations qu'ils ont les uns avec les autres. Alors, le grand travail avec les comédiens consiste à comment faire vivre les personnages pour que ce n'est pas désincarné, justement.
Donc, c'est un travail essentiellement sur les comédiens que vous avez mené, avec les comédiens.
Oui, oui, oui.
Vous les faites travailler de quelle manière? Est-ce qu'il y a une direction d'acteur particulière?
On explore ensemble beaucoup de directions pour voir comment ce personnage peut être la mère qui parle beaucoup, la fille qui parle à peine. Alors c'est une exploration, comment quelqu'un peut être qui parle comme ça.
C'est-à-dire que vous essayez de remplir les silences?
Les silences, vous voyez, là je viens de vous en faire un. Hein? Les silences, ils sont toujours inscrits. Il y a des silences qui sont parce que je ne sais plus quoi dire. Il y a des silences parce qu'il y a trop à dire. Alors, c'est en fonction de ce que le personnage dans la situation concrète veut ou ne veut pas. Peut-être qu'il ne veut rien à un certain moment. Alors, c'est pour ça qu'il ne dit rien. Ou peut-être qu'il y a trop à dire. Alors, on n'arrive pas à dire. Alors, il y a quelqu'un qui fait un silence, tandis que la mère, elle parle beaucoup justement pour éviter les silences. Tout ça, c'est vraiment lié à au personnage. Ils se découvrent, disons, on les découvre dans la langue qu'ils ont.
Donc c'est une question de rythme, en fait.
Ah oui, ah oui.
Est-ce qu'on peut parler, on parle souvent avec des textes contemporains, on le dit de Bernard, on le dit d'autres auteurs, que c'est écrit comme une partition musicale. C'est souvent vrai, en même temps c'est toujours un petit peu abstrait, mais est-ce que vous pensez que Fossé c'est écrit comme une partition musicale?
Sûrement, il est très musical. Il arrive à épurer, il épure le langage de ses personnages. Mais pour nous, le travail consiste à entendre la musicalité, mais de la faire vivre. Ce qui est essentiel pour moi avec Fossé, c'est qu'on y croit à ses personnages.
Donc c'est une pièce de sentiment?
Il faut être très pudique avec les sentiments. Il est pudique et les personnages sont pudiques, je pense.
On a découvert Fossé en France beaucoup grâce à Claude Régis. Est-ce que vous avez vu son travail? Comment vous vous situez par rapport aux propositions de Claude Régis sur Yon Foss?
À l'époque, je regrette beaucoup que je n'ai pas pu voir ce spectacle parce que je travaillais à l'étranger à l'époque. Mais je pense que ça s'inscrit dans le travail de Claude Régis. Claude Régis, ce n'est pas Fossé. Il a sa manière à voir ça, c'est sur une pièce qui est aussi très différente de la mienne. Alors, je ne pense pas qu'on peut comparer ça. Claude Régis, il a toute une, disons, ça s'inscrit dans tout son monde, comment il traite les langages. Tandis que pour moi, je cherche quelque chose d'autre dans Yon Fossé. Pour moi, on est en Suisse aussi, avec des gens qui ont du mal à parler, comme ça peut être le cas chez Fossé. Pour moi, ça a une autre fonction. Pour moi, c'est lié aux états émotionnels des personnages. C'est très lié. Le langage est lié pour moi aux émotions.
Donc, tout à l'heure, on parlait de sentiments. Ce serait plus une pièce sur les émotions que sur les sentiments.
Sur les émotions et sur les relations. Fossé, il dit qu'il écrit les relations entre les personnages. Et c'est ça qu'il faut chercher, qu'on y croit à ces relations.
Alors, on va peut-être poser la question à la mère, Dominique Raymond. Comment vous vous êtes emparé comme ça du langage de Yon Foss que Marie-Louise Bischoffer décrit comme un langage émotionnel?
Au début, disons que j'ai essayé de... Enfin, je l'ai lu.
Déjà, c'est un bon début.
Non, mais en le relisant, la partition musicale dont vous parliez apparaît de toute façon. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas en faire abstraction.
Mais ce n'est pas impensif, ça, de parler de partition musicale.
Non, mais parce que, de par le simple dessin des mots, enfin, la façon dont c'était écrit sur le papier... Ça oblige à une certaine façon de le lire, tout simplement, mais sans avoir une idée préconçue particulièrement. Quant aux émotions ou à la psychologie, tout ça, je m'en suis pas du tout occupée, voilà. Mais enfin, au début. Et donc, je pensais que uniquement par rapport à dire et redire et redire d'une façon presque bête. Et puis après, avec Marie-Louise, nous avons fait le reste. Mais voilà, j'ai commencé comme ça, quoi, vraiment sans... Enfin, si ça réfléchissait, c'était malgré moi, mais c'était surtout simplement de le lire. Ouais, tous les jours, je l'ai lu, voilà.
Mais ça n'a jamais réfléchi.
Pardon ?
Ça n'a jamais réfléchi.
Bah, tout seul, mais je veux dire... J'ai pas eu une trajectoire en imaginant que pouvait être cette femme. Je veux dire, le texte le dit d'abord. Et nous, on est un peu en arrière et assez humble finalement par rapport à cette chose tellement imposante quand même. Ça fait peur un peu au début, c'est impressionnant. L'impression de rentrer dans un opéra. Et puis après, petit à petit, bon, bah, la chose s'approche. On se l'approprie, enfin, comme chaque fois d'ailleurs, mais.
Hugues Kester, même question. Comment vous vous êtes comme ça approprié cet opéra?
Moi, en général, je construis et je pars d'une minuscule, d'un minuscule noyau intérieur qui est... Je pars de quelque chose de très très minimaliste à l'intérieur de moi-même pour construire les personnages. C'est-à-dire que j'essaie d'être au cœur de l'écriture, de l'univers, et peu à peu, c'est quelque chose qui se développe, mais je retiens très très longtemps les choses, le personnage. Je veux dire, je n'aime pas jouer très vite quelque chose. Je veux dire, quand je répète, mais j'ai besoin d'un minimum de sentiments, parce que je me défends toujours des sentiments qu'on peut avoir trop vite, et je me défends aussi de donner trop vite quelque chose, parce qu'après, une fois qu'on l'a donné, c'est très difficile de revenir en arrière. Et quelque part, ayant joué avec aussi le texte de Nathalie Sarraute, pour un oui ou pour un non, j'ai trouvé quelque part une relation entre l'écriture de Foss et un peu celle de Nathalie Sarraute. C'est-à-dire cette espèce de... Pardon, matin, de mouvements sous-jacents de la conscience, et comme disait Nathalie Sarraute, c'est-à-dire de jusqu'à ce moment où les choses se passent d'une manière totalement intérieure, et tout à coup affleurent des mots qui sont quelque part des indications minimaux sur un monde très profond intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ce travail avec beaucoup de plaisir et beaucoup de d'une manière en m'intégrant totalement dans l'esprit de nous tous, et puis aussi quelque part aller jouer aussi à Vidi chez René Gonzalez, c'est toujours pour moi un immense plaisir, parce que là-bas je sais que je ne suis plus pris dans un rythme de frénétique qu'on peut avoir dans les grandes villes, et quelque part c'est un lieu qui apporte la paix là-bas à un comédien de temps en temps, voilà. Donc, je ne sais plus très bien où est la question, mais...
Qu'importe la question, vous avez fait une belle réponse. Marie-Louise Bischoffer, est-ce que ça suppose, quand on entend Hugues Kester, est-ce que ça suppose pour un comédien un état particulier pour aborder les mots de Faust ? Quand il parle de paix... Il parle de Vidi, mais...
Oui, moi aussi, je parle de Vidi, évidemment, de René. Bien sûr, ça, puisqu'il y a peu de mots, on ne peut pas... Il faut tellement se livrer. Il faut extrêmement se livrer à ce monde de fossé. Et ce qui suppose pour tout le monde, à chaque fois, laisser arriver les choses très à soi pour trouver ces quelques mots, oui.
Mais vous travaillez avec les quatre comédiens toujours ensemble, ou vous avez des rapports très particuliers, très individualisés, très isolés avec chacun d'eux ?
Avec quatre acteurs, et de toute façon, oui, c'est des rapports très isolés avec chacun, oui. Puisque dans la pièce aussi, vous voyez, jamais il y a plus que deux personnes, disons toujours quand il y a un troisième qui arrive, il y a quelqu'un qui part. C'est-à-dire, il ne peut y avoir que deux personnes dans un espace chez Fossé, ce qui suppose que avec chacun il faut tisser ces relations, oui.
Mais il y a quand même toujours l'homme absent.
Il y a le père absent, mais il y a l'homme qui est très présent.
Le père absent qui est toujours quand même, qui plane un petit peu dans chacune des scènes, donc ce sont presque des scènes à deux présents et un absent.
Oui, mais c'est des personnages qui de toute façon ils sont abandonnés quelque part. C'est-à-dire le père, il est parti il y a longtemps, ce n'est plus une douleur immédiate, sinon c'est des personnages qui, dans leur trouble de vie, disons, avec des sentiments de solitude, ils se trouvent au centre quand même de la société, mais ils sont seuls, et ces mots qu'ils ont, ils se rattachent à quelque chose, ils essaient de se rattacher avec leur langue aussi.
On va poser la question à Audrey Bonnet, qui est derrière le parasol, que je vois mal. Vous jouez donc la fille dans Visite. Dans quel état est-elle par rapport à la mère ?
Dans le vide. Et la mère, elle... Peut-être pas la mère qui passe son temps à remplir, à parler beaucoup. Peut-être parce que sa fille, elle ne parle pas. Dans l'écoute.
Mais est-ce que vous avez imaginé une psychologie du personnage, ou comme le disait Dominique Raymond, vous en êtes peu soucié ?
Non, je ne m'en suis pas souciée au début. Mais. J'ai essayé de voir ce qui naissait du vide, du rien, de l'écoute de ce qui se passait, de. Et les choses sont vraiment nées de nous quatre, en fait, des relations entre nous quatre, entre ces...
Entre vous quatre comédiens ou vous quatre personnages ?
Comédiens. Et c'est aller vers les personnages, vers une famille, vers... Mais c'est vraiment né de ça, né des gens qui sont là, et pas de quelque chose qui a précédé, je crois pas. Enfin, c'est l'impression que j'ai...
Jérémy Lippmann, le frère dans tout ça, est-il dans le même vide?
Moi, je pense que par rapport à ce vide-là, au départ, il arrive, ce personnage, il arrive sans, comment dire, sans savoir ce qui va lui arriver, et d'un seul coup, par une phrase qu'on lui annonce, ça déclenche en lui peut-être des choses qu'il ne connaissait pas, des façons de réagir violentes avec une impossibilité aussi. C'est ça qui est très frappant dans ce rôle-là, c'est l'envie de savoir, de prendre des moyens très hardcore, enfin très très violent, très même presque rock'n'roll, mais qu'il n'assume pas du tout par sa vie, parce qu'on tout l'imaginaire qu'on peut se poser avant, et que à la fin il fait encore un nouveau grand pas quand il quitte cette enfance, tout ce lieu que lui a quitté auparavant, où on a l'impression que ça lui faisait pas plus mal que ça, et en fait par rapport à la sœur, on découvre que ça le touche beaucoup plus. Pourtant, il est déjà parti juste en revenant dans les sensations, mais je trouve que souvent on retrouve ça quand on part d'un endroit dans la vie et qu'on revient 40 ans plus tard, on a une certaine nostalgie, une certaine émotion quelconque, mais qui est touchante. Et donc il a une évolution vraiment très frappante par rapport à la pièce, quoi. Il passe quand même, c'est ce que je pense, moi.
Comment? Oui.
Mais j'aimerais quand même dire que un vide ne se décrit jamais par un vide. C'est-à-dire, c'est des moments de déchirance de relations, et quand les relations se déchirent, il y a de toute façon toujours un moment de vide parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Mais les relations jusque-là, ils sont quand même très, disons, entre mère et fille, sont très intenses. Il y a un blocage. Ils ne savent plus comment se traiter s'il n'y aurait pas quelque chose qui arrive pour les faire séparer. Mais c'est pas, ils sont pas, disons, deux étoiles qui se promènent dans l'espace. Au contraire, s'il y a une sensation de vide, c'est parce que il y a maintenant quelque chose qui arrive, qui va les séparer. C'est tous les moments qui sont dangereux dans la vie, quand il y a des relations qui se défendent, c'est là où on sent le vide. Mais on le sent pas par le vide, sinon on le sent par une intensité qui va se déchirer, par exemple.
Alors comment vous mettez justement en scène cette violence et ce déchirement?
Il faut venir voir.
Non, est-ce que ça repose encore sur tout le travail des comédiens, ou est-ce qu'il y a, est-ce qu'on est sur l'arrêt des mots comme ça encore pour cette violence, pour traiter cette violence?
Il faut vraiment venir voir. Là, je peux.
Peut-être des questions dans la salle avant d'aller voir le travail de Marie-Louise Bischofberger. Berger, dites-moi comment on prononce.
Bischofberger, avec nous tous.
Pas de questions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, vous êtes dans la salle Benoît XII à partir de samedi avec visite de Yon Foss.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.